Le service Orange Monnaie, réception d'argent depuis la France, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous dans 30 minutes. Je vous propose de réagir à l'avenir judiciaire de Laurent Gbagbo et de Charles Blégoudé. Un avenir incertain, d'autant que la procureure de la Cour pénale internationale a contesté l'acquittement prononcé en début d'année en faveur de l'ex-président ivoirien et de son ancien ministre. Hier, Fatou Bensouda a donc fait appel et elle demande d'ailleurs la relance du procès, ce qui compromet évidemment le retour de Laurent Gbagbo dans son pays avant l'élection présidentielle de l'année prochaine. Alors que pensez-vous de cette décision? Faut-il y voir un acharnement politique comme l'affirment les partisans de l'ancien président? Et dites-nous, vous qui êtes sur place, si cette décision de la procureure aura des conséquences sur le processus de réconciliation nationale. On vous attend au standard 33 9 693 693 70. Vous continuez évidemment à poster vos commentaires sur la page Facebook de l'émission avec des points de vue très tranchés ce matin, avec ceux qui applaudissent évidemment la décision de Fatou Bensouda et ceux qui au contraire dénoncent un procès politique. Nous vous donnerons la parole dans une demi-heure maintenant. Mais d'abord, comme tous les matins, vous le savez, c'est votre rendez-vous privilégié avec la rédaction des RFI. Ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Et nous allons commencer avec des questions concernant cet ancien espion, l'espion de la CIA qui était infiltré au Kremlin. Bonjour Aruna.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Vous êtes au Burkina Faso, nous vous écoutons.
Ok, selon CNN, la CIA a exfiltré en 2017 un responsable russe qui travaillait pour le gouvernement américain. Je voudrais savoir qui est cet espion et pourquoi la CIA a-t-elle décidé de l'exfiltrer alors qu'il travaillait pour le gouvernement américain depuis des décennies.
Ouais, une affaire d'espionnage tout droit sortie de la guerre froide. Bonjour Harim Lipold.
Bonjour Juan, bonjour Aruna.
Merci d'être avec nous, vous êtes journaliste au service international de RFI. Alors effectivement, CNN annonçait il y a quelques jours que les États-Unis avaient exfiltré il y a 2 ans de Russie un agent russe qui avait accès au plus haut niveau du Kremlin. Il avait directement accès à Vladimir Poutine. Que sait-on d'abord de cet espion?
Alors effectivement, l'affaire a été révélée la semaine dernière par la chaîne CNN. CNN qui s'est d'abord bien gardé à révéler l'identité hein, de cet espion. C'est les médias russes qui ont quelques heures après présenté le nom de cet espion et une photo aussi qui circule depuis sur les réseaux sociaux et en une des journaux. Donc il s'appelle Oleg Smolenkov. C'était un fonctionnaire en fait au ministère des Affaires étrangères russe. Il a à peu près la cinquantaine. Il est né en 69 et il grimpait petit à petit les échelons du ministère. Et c'est lors de son passage à l'ambassade russe à Washington au début des années 2000 qu'il a été recruté par la CIA. De retour à Moscou, il commençait à travailler avec Yuri Washakov. C'est le conseiller du président Vladimir Poutine pour les affaires internationales, les affaires étrangères. D'après CNN et d'autres médias américains, effectivement, comme vous l'avez dit, Juan, Oleg Smolenkov avait un accès direct au bureau de Vladimir Poutine. Il pouvait prendre, en cachette bien sûr, des photos, des documents posés sur le bureau du président.
Du président Poutine, c'est-à-dire qu'il a photographié des documents qui étaient censés rester confidentiels.
Confidentiels, absolument. C'était toujours d'après les médias américains, la source vraiment la plus importante des renseignements américains en Russie à Moscou jusqu'à il y a 2 ans.
Ouais. Et visiblement, c'est lui qui aurait confirmé l'ingérence de la Russie lors des dernières élections aux États-Unis.
Exactement, c'est lui qui a confirmé auprès des services américains que cette ingérence a été orchestrée, ordonnée par le président Poutine, Vladimir Poutine lui-même, ce qu'il a lui toujours refusé quand on lui a posé la question lors des conférences de presse.
Pourquoi la CIA a-t-elle décidé d'exfiltrer cet agent?
Alors, il y a plusieurs versions qui circulent, en fait. Alors, c'est selon CNN qui a révélé l'affaire. La CIA commençait à craindre pour la vie de son meilleur espion à Moscou, parce qu'en fait, l'agence n'avait plus confiance en Donald Trump, le président américain, qui a pris ses fonctions en 2017. Et vous savez, il y a une réunion, en fait, qui a fait pas mal de parler de Donald Trump avec l'ambassadeur russe et le ministre des Affaires étrangères russe à Washington, où Trump parlait ouvertement des informations classées secrètes. Ouais. Donc à ce moment-là, la CIA a compris, selon CNN, ça peut être dangereux pour notre espion à Moscou
Elle avait peur que Donald Trump mette en danger son meilleur agent, finalement.
Exactement, son meilleur agent, absolument.
Oui. Alors, surtout qu'il se disait aussi à l'époque que Donald Trump, à plusieurs reprises, avec ses interlocuteurs, révélait des informations classifiées.
Classifiées.
Donc, ils se sont dit, il est capable du pire.
C'est ça, exactement. Oui. Ce qu'il a fait exactement lors de cette réunion. Et puis, il voulait aussi renouer d'une certaine façon les relations avec la Russie. Donc, il savait pas, est-ce qu'il va peut-être sacrifier cet agent pour un réchauffement des relations avec Vladimir Poutine.
Donc Smolenkov est exfiltré en juin 2017.
Smolenkov, ça c'est sûr, est exfiltré. Alors selon l'autre version présentée par le New York Times, cette exfiltration a été commencée, ou l'idée déjà a commencé à émerger en 2016, avant l'élection de Donald Trump. En tout cas, il a été exfiltré en juin 2017 via le Monténégro. Alors Oleg Smolenko, il est marié, il a 3 enfants. Donc sa famille s'est rendue en avion en Monténégro. Un bateau les attendait pour les amener en Italie, d'où ils ont pris l'avion en direction de Washington. Ensuite, ils ont acheté une maison en Virginie, donc tout près de Washington, pour $1 million.
Incroyable histoire.
Incroyable histoire.
Ouais. Je crois que Aruna a une dernière question. Rapidement, Aruna.
Ok, quelle a été la réaction du Kremlin à propos de cette révélation?
Alors, le Kremlin a reconnu que cette personne avait bien travaillé.
Le Kremlin a reconnu que cette personne a bien travaillé au sein du ministère des Affaires étrangères. Ils ont évidemment tenté, les Russes ont tenté de minimiser cette affaire. Ils ont dit que non, il n'avait pas d'accès direct à Vladimir Poutine, et il était licencié pour des raisons internes. Le Kremlin qui a aussi licencié certains agents qui étaient responsables, selon certains des médias russes, d'avoir laissé Oleg Smolenkov s'en aller avec sa famille, qui n'ont pas assez surveillé. Et puis la Russie aussi, dernière réaction qui date de vendredi, demandait aux États-Unis via Interpol de fournir des informations sur Smolenkov, ce qui prouve que, en tout cas officiellement, la Russie a effectivement aussi perdu sa trace.
Ouais. A-t-on répondu à vos questions, Aruna ?
Oui.
Je pense qu'Arim Lipold a été complet ce matin. Merci à tous les deux, bonne journée. Il est 10h19 à Paris. On a pris le temps ce matin avec cette histoire d'espionnage. Serge Daniel, bonjour.
Juan, bonjour.
Merci d'être avec nous, correspondant de RFI au Mali. On vous a contacté ce matin car nous avons des questions sur l'influent imam Mahmoud Diko, des questions qui nous sont posées par Kalilou. Bonjour.
Bonjour, Dan. Salut.
Bienvenue. Merci de nous accueillir à Cotonou, au Bénin. Quelles sont vos questions?
Oui, l'imam Mahmoud Diko a annoncé la création d'un mouvement politico-religieux nommé Coordination des mouvements, associations et sympathisants. Mmh. Alors, en quoi consiste le projet politique proposé par Mahmoud Diko? Quelles sont les ambitions de ce mouvement, étant donné qu'il n'est pas reconnu en tant que parti politique? Et qui sont les soutiens de Diko?
Ah, les soutiens politiques. Et il en a, des soutiens. Mahmoud Diko, Serge Daniel, l'ancien président du Haut Conseil islamique malien, a donc lancé son mouvement politico-religieux. Y a-t-il un projet politique? Ou a-t-il véritablement un projet politique, Mahmoud Diko?
Alors, Il faut juste pour rappeler que c'est le 7 septembre dernier à Bamako que l'imam Diko a lancé son mouvement politico-religieux. Pour le moment, Juan, il n'y a pas dit qu'il était candidat à la présidentielle. C'est très important parce que c'est l'échéance que tout le monde vise. Il n'a pas non plus de programme politique précis, hein, c'est-à-dire ce qu'il va faire en matière de santé, d'éducation, de réforme, etc. Il n'a pas décliné de programme. C'est le discours qui est politique. Mais c'est, d'après nos informations, une stratégie pour rester d'abord à équidistance des forces, pour garder la liberté de ton qu'on lui connaît. Mais il est clair que, pour le moment, si on devait le situer, c'est un homme très critique vis-à-vis du pouvoir, parce qu'il dit, il a dit lors du lancement de la CEMAS, il a dit, le problème du Mali, c'est un problème de gouvernance. Il a critiqué le règne de la corruption. Et pour Kalilou, j'aimerais bien rappeler qu'il a critiqué également le système éducatif qui, selon lui, est dans un état déplorable.
Oui, Mahmoud Diko qui s'attaque aux autorités et qui, en quelque sorte, dit tout haut ce qu'une partie des Maliens pense. Donc, pas d'ambition présidentielle, officiellement, tout du moins. Quelles sont, malgré tout, les ambitions de ce mouvement politico-religieux ?
Alors, il est clair qu'il veut dire « je suis désormais officiellement dans le marigot politique malien ». Alors pourquoi? Il veut rassembler davantage pour secouer le cocotier, pour peser sur la vie politique, c'est clair. Et disons-le, il fait quand même déjà peur. Déjà à la veille du lancement de son mouvement, un communiqué officiel de la Cour constitutionnelle, qui ne citait pas directement, mais qui le visait probablement, rappelait subtilement qu'il ne fallait pas confondre politique et religion. Mais Mahmoud Diko s'assume, il était contournable, et il crée un mouvement politico-religieux. Pourquoi il y a des partis politiques chrétiens en Europe? Et nous, ici, nous n'avons pas le droit de créer un parti qui prend en compte notre religion. C'est un rose, par exemple, ses partisans. Donc, il crée un parti politique, un mouvement politico-religieux pour être un peu le gardien du temple, de la morale, et en même temps pour peser sur le cours des événements.
Oui, en tout cas, la veille du lancement officiel de ce mouvement, la Cour constitutionnelle a publié un communiqué dans lequel elle rappelait qu'aucun parti, aucun mouvement ne pouvait se constituer sur une base ethnique, religieuse ou linguistique sous peine de sanctions. Donc peut-être que la création de ce mouvement pourrait représenter une sorte d'atteinte à la Constitution. On suivra évidemment cela de très près. Kalilou nous demandait si Diko, l'imam Diko, était soutenu par des partis politiques. Vous étiez vous au lancement officiel de ce mouvement, et disons-le, Serge Daniel, il y avait des personnalités politiques de l'opposition comme de la majorité au premier rang.
Ah oui, et ça c'est une indication. Nous avons vu effectivement dans la salle comble des responsables politiques de l'opposition et de la majorité, et c'est clair, ils veulent travailler avec lui, ils savent qu'ils mobilisent. Et d'ailleurs, Mahmoud Diko, ici, lui, peaufine son image, on le disait anti-français, il dit « je ne suis pas un adversaire de la France, mais j'aime mon pays ». Il s'assume également, taxé d'imam, d'être un imam et un rigoriste, ses partisans ajoutent tout de suite nationaliste, qui veut notamment une politique de la main tendue, aux islamistes maliens qui ont pris les armes contre leur pays.
On aura peut-être l'occasion de parler de Mahmoud Diko vendredi dans la Libre Antenne. Si vous êtes à Bamako ou ailleurs au Mali, vous êtes les bienvenus et vous pouvez évidemment commenter donc le lancement officiel de ce mouvement politico-religieux. Kalilou, bonne journée à Cotonou. Un grand merci à Serge Daniel, correspondant de RFI au Mali. À Bamako, il est 8h24, à Paris 10h24. Il nous reste le temps de prendre une dernière question. Simon Rosé, journaliste au service Sciences de RFI, est à mes côtés. Bonjour Simon.
Et bonjour Juan.
Des questions sur les ambitions spatiales de l'Inde. Fred, soyez le bienvenu.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Brazzaville. Nous vous écoutons. J'y arrive avec Simon.
L'agence spatiale indienne a perdu contact avec la sonde qui devait du coup faire de l'Inde la quatrième puissance spatiale à poser un appareil sur la Lune. À ce sujet, j'ai des questions à poser à Simon. Mm-hmm. Alors, existe-t-il encore un espoir de rétablir les communications avec la Terre?
Alors, on va déjà répondre à cette première question, Simon Rosé. C'est vrai que c'est un coup dur pour l'agence spatiale indienne, puisque les scientifiques ont effectivement perdu le contact avec cette sonde qui était censée se poser sur la Lune. Plus de contact, et ce à quelques minutes de son atterrissage.
Ouais, au moment de la descente, on était à peu près à 2 km d'altitude de la surface lunaire. Au niveau du pôle sud, c'était quelque chose qui avait jamais été tenté de se poser sur le pôle sud. Eh bien, encore une fois, ça n'a pas marché. Alors, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. L'ISRO, donc l'Agence spatiale indienne, a gardé le silence quelques jours après l'échec de cet atterrissage. Ils ont annoncé après avoir repéré Vikram, c'est le nom de cet atterrisseur, grâce à des caméras infrarouges, ce qui voulait dire qu'il avait une activité dessus. Mm-hmm. Donc il fonctionnait peut-être qu'il s'est bien posé. Toujours est-il qu'il n'arrive pas à communiquer avec la Terre. Les causes, on les connaît pas, puisque par essence, il arrive pas à nous dire l'atterrisseur, on peut pas savoir dans quel état il est, vu qu'il ne peut pas communiquer. Et il était conçu pour fonctionner 14 jours. Donc, la tentative d'atterrissage a eu lieu, le week-end dernier. Il y a 10 jours à peu près, donc
juste 10 jours exactement.
Ouais, voilà, il y a très peu de chances que les communications soient établies avec.
Il reste encore 4 jours pour essayer d'entrer en contact avec Vikram.
Mais vu que par essence on peut pas faire d'opération sur cet atterrisseur, vu qu'il ne communique pas avec nous, on peut pas lui envoyer de données, on peut pas lui envoyer des instructions, on peut pas évidemment ne pas le réparer sur place. Donc c'est peu probable. Une bonne surprise est toujours possible, mais c'est vraiment très peu probable qu'on puisse établir les communications avec lui.
Ouais, Fred. Autre question.
Est-ce cet échec remet en cause les ambitions spatiales de l'Inde?
Alors l'Inde qui voulait devenir, comme le rappelait Fred en substance tout à l'heure en introduction, la quatrième nation au monde à poser un appareil sur la Lune après les États-Unis, l'Union soviétique, la Chine, tout est compromis?
Non, tout n'est pas compromis parce qu'ils ont un programme spatial qui déroule, mais il faut surtout rappeler que se poser sur la Lune, on a l'impression que c'est simple comme ça parce qu'on parle beaucoup d'aller sur la Lune, on a fêté les 50 ans d'Apollo cette année. Comme vous l'avez dit, il y a que 3 États qui ont réussi pour l'instant à le faire, la Chine en janvier dernier, mais avant ça faisait quasiment 40 ans qu'on n'avait jamais rien posé sur la Lune. L'Europe n'a jamais essayé, mais les Israéliens ont raté plutôt cette année, donc déjà d'une, c'est pas simple. Ensuite, l'Inde, elle a un programme spatial, des ambitions spatiale qui évolue en fait assez récemment. C'est intéressant en question, il s'appelait Vikram, du nom de Vikram Sarabhai, qui est un peu le patron, le père du programme spatial indien dans les années 70. Et lui, à l'époque, il disait, on n'a pas les épaules suffisamment larges pour faire rentrer dans la course à l'espace comme les États-Unis et l'URSS à l'époque. Donc, on va faire quelque chose de très pratique, de très appliqué pour la population. Donc, ça va être de l'imagerie satellite, de la cartographie, ça va être du positionnement par satellite, ça va être du télécom, du militaire, très peu, mais il y en a. Et l'Inde était présente sur tous ces segments et ça fait que quelques années seulement qu'elle se consacre à des missions de vraiment plus grande envergure. Ils ont envoyé une sonde vers Mars, Mangalyaan, il y a quelques années. Et on en avait beaucoup parlé aussi puisque il y a une constante dans le programme spatial indien, c'est que c'est des programmes low cost, comme on dit, qui coûtent en général moins qu'un blockbuster hollywoodien, par exemple.
Enfin, là, visiblement, Vikram, c'est quelque chose comme 120 ou 130 millions d'euros. Ce n'est pas rien.
Ce n'est pas rien, mais ça coûte moins cher qu'un film d'Hollywood.
Ah oui, effectivement.
Et c'est toujours pareil, c'est des programmes qui prennent 10 années, donc 120 millions d'euros rapportés sur 10 ans, ça fait 12 millions par an, ce qui est pas non plus le nombre de gens que ça fait travailler, les retombées économiques et industrielles qu'il y a, c'est pas non plus excessif comparé à ce qui se fait ailleurs. Donc l'Inde a son programme. Elle prévoit de continuer d'explorer, de rester dans le domaine de la science avec l'envoi de deux observatoires spatiaux l'an prochain. Et surtout, le gros projet, ça, c'est Horizon 2022. C'est peu probable qu'ils le tiennent parce que c'est compliqué là aussi, mais c'est d'envoyer des gaganautes, des marcheurs du ciel, donc des astronautes indiens. Ça, c'est l'objectif donné par Narendra Modi à l'ISRO, à l'Agence spatiale indienne. Donc, Horizon 2022, l'Inde n'a pas pour habitude de tenir vraiment ces délais, ils prennent le temps, c'est bien de prendre le temps, puisque l'espace est une chose compliquée, mais voilà, c'est un peu le plan, donc l'Inde ne va pas lâcher comme ça.
Fred ?
Merci Juan.
Merci à vous, bonne journée à Brazzaville, et surtout un grand merci à Simon Rosé qui est venu
et merci à Fred pour les
nous
questions.
Expliquer les questions intéressantes comme d'habitude posées par nos auditeurs. D'autres questions à la rédaction demain matin, 8h10 temps universel, 10h10 heure de Paris. D'ici là, vous nous appelez, le standard reste ouvert, toute l'équipe vous attend au 33 9 693 693 70. Toutes vos questions nous intéressent, aucun sujet n'est tabou, donc n'hésitez pas, appelez-nous ou sinon vous nous contactez via les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission, en n'oubliant surtout pas de nous envoyer un numéro de téléphone. Si vous voulez passer à l'antenne, il faut absolument que nous puissions vous rappeler. On va marquer une pause et retrouver l'ensemble du service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin. Et on reviendra tout de suite après, dans 10 minutes, pour débattre de l'avenir judiciaire de Laurent Gbagbo, puisque Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, a décidé hier de faire appel de l'acquittement prononcé en faveur de l'ancien président ivoirien en tout début d'année. Vous êtes déjà nombreux au standard, un peu de patience.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.